Jean-Baptiste Ngimbi a été retrouvé le 17 septembre 2016 par l'armée congolaise au bord de la rivière Chulwango. Donc il y avait quelques jours, on avait déploré son enlèvement par un commando à Pointe-Noire, où il vivait. Il laisse des enfants sans père. Il laisse une femme sans mari.
Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi cela lui est arrivé?
On ne connaît pas les circonstances, mais ce n'est pas la première fois. Depuis 2011, on déplore ce genre d'enlèvement par des commandos non identifiés jusque-là. Il y a des supputations parmi le cabinet accusant les forces armées angolaises. Je peux citer nos martyrs comme Gabriel Nemba, Pierre Lampo, Mauricio Lubota Sabata, João Alberto Ngobes, Noz Dia, David Zaou, Sébastien Mazunga et j'en passe.
Quel est le litige qui vous oppose au gouvernement angolais?
Conflit qui est parti depuis l'annexion forcée du territoire cabinet à partir de 1975. Donc nous, cabinet, déplorons à ce jour la manière dont cette annexion a eu lieu, par la force.
Quelles sont vos revendications aujourd'hui?
Nos revendications sont simples. Nous, on aspire à la vie, à la démocratie, à la liberté. C'est pour cette raison que nous, cabinet, nous appelons le gouvernement de Luanda de se conformer à la résolution de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de ce peuple à disposer d'eux-mêmes, de s'organiser politiquement, administrativement, économiquement, culturellement, socialement sur leur territoire. Voilà ce que nous revendiquons aujourd'hui. Nous aspirons à la liberté, à la dignité, à notre identité kabylaise. Menace, séquestration ne peut pas nous ôter cette volonté. L'autodétermination pour nous, c'est une manière de vivre dignement sur notre territoire, avec tous les droits que cette autodétermination confère à un peuple.
Quelles sont les démarches que vous menez pour y arriver, pour avoir accès à votre indépendance?
Depuis longtemps, le peuple kabylais a été toujours face à face avec le gouvernement de Luanda. Ce face à face a connu plusieurs échecs. C'est pour cette raison que nous demandons un dialogue inclusif, incluant toutes les forces vives, politiques, civiles de Luanda, de l'Angola et du Kabinda. Quelle que soit leur opinion sur la question, trouver une solution dans cette crise. Bien sûr, assistée par la communauté internationale. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui à Washington pour essayer de sortir le FLEC, FAC, de son isolement politique et diplomatique. Nous avons rendu visite à l'IRI, Institut International Politique des États-Unis, et au NED, qui nous ont prêté l'oreille. C'est une main contente au gouvernement de Luanda pour qu'on s'assoie, comme l'a rappelé malheureusement avant de nous quitter notre leader historique, Zita Thiago, nous a dit à ses descendants que sa dernière volonté était d'appeler les cabinets d'abord, de s'entendre, de s'asseoir autour d'une table et enfin, de s'asseoir autour de la table avec nos frères angolais pour trouver une issue favorable à cette crise.
Et vous croyez que c'est possible aujourd'hui de s'asseoir autour d'une même table avec les autorités angolaises?
Et c'est possible parce qu'il s'agit de la volonté humaine. La volonté humaine qui pourra nous aider à sortir de cette crise. Parce que je sais qu'au sein de nos frères angolais, il y a des hommes épris de paix et d'humanité. Au sein des cabinets également, il y a des hommes et des femmes éprises de paix et d'humanité. On peut toujours dialoguer par la tolérance, par le dialogue. On s'assoit, on parle, on trouvera toujours une solution. C'est notre, et cela va dans nos traditions ancestrales. Nous, Africains, lorsqu'il y a un différent, toujours se retrouver autour d'une table pour dialoguer, dans la tolérance. Même si nous ne sommes pas d'accord, mais on écoute, on tolère, il y a toujours la lumière qui jaillit à la fin.